Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Passerelle, l'émission qui crée des liens et vous fait voyager dans le temps et dans l'espace.
Time Trap a prouvé que le voyage dans le temps finira bel et bien par exister un jour.
C'est toute la fiction et puis je trouve le concept tellement sympathique.
On a vouloir créer un lien.
Voyager dans le temps, moi j'y croyais pas trop.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Alors je suis toujours accompagnée de ma curieuse machine à voyager dans le temps, prénommée Gudule. Et pour ce troisième numéro, on vous propose un voyage entre littérature et peinture, géographie et cinéma, science et histoire, pour explorer sous tous les angles un thème plus fascinant qu'il n'en a l'air, l'hiver. Et aujourd'hui, Gudule et moi, on a un objectif. Vous inviter à regarder d'un œil nouveau une saison mal aimée, mais qui pourtant ne rime pas uniquement avec froid et température négative. Parce que oui, l'hiver, c'est aussi l'ambiance ouatée des soirées au coin du feu, les détails de ce tableau de Bruegel, la crainte terrible du gel pour les paysans du Moyen-Âge, ou l'onérisme des paysages de neige. Et puis l'hiver, c'est aussi des enjeux, des questions, des idées, des imaginaires, enfin bref, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse embarquer pour ce voyage rafraîchissant, alors couvrez-vous bien, et c'est parti Gudule.
1564-65 fut particulièrement rigoureux dans le Brabant.
Ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre ».
Vers 1962, le plus froid du siècle. Décembre 1970, la marée blanche envahit le sud de la France.
France est la deuxième destination mondiale pour le ski.
De délicats cristaux d'eau forment des flocons.
Des chutes de neige qui pourraient apporter localement 2 à 5 voire 10 cm et donc tout.
The winter is coming.
Alors je pense que pour commencer, on est prêt pour une petite histoire de l'hiver. Alors non, t'inquiète pas Gudule, pas de cours d'histoire soporifique, je te laisse la parole et je te donne un défi. Emmène-nous voir comment on considère, comment on vit l'hiver à travers les âges, et pour ça je te laisse carte blanche, sans jeu de mots, pour nous faire voyager à travers les lieux et les époques. Alors pour cette première escale, je vois que tu as choisi, Gudule, de nous emmener au Moyen-Âge. Eh bien, je vous propose deux étapes. D'abord, nous intéresser un petit peu au climat à cette époque, et ensuite se demander de quelle manière l'hiver était vécu au Moyen-Âge. Alors oui, t'as raison, commençons par le climat. À l'époque, il y avait déjà quatre saisons, déterminées par des calculs astrologiques et souvent associées aux âges de la vie ou à des tempéraments, comme le montre ce qu'on appelle les roues cosmiques dans les manuscrits. Mais pour les gens, l'année se divisait en fait en deux grandes périodes, la saison chaude et la saison froide, de la Saint-Michel en septembre au carême. Ensuite, on peut distinguer au Moyen-Âge deux grandes périodes climatiques très différentes. Le petit optimum médiéval d'abord, qui est caractérisé par des étés chauds et des températures clémentes, et qui correspond plus ou moins au XIIIe siècle. Et puis ensuite, le petit âge glaciaire, qui est lui caractérisé par des hivers froids et neigeux, et par l'avancée des glaciers, et qui correspond à la période entre le XIVe et le milieu du XVe siècle. Donc concrètement, l'hiver c'est quoi? Eh bien c'est d'abord la période de l'année des aléas climatiques qui ont des conséquences sur toute la société. Oui, comme ça vous n'êtes peut-être pas convaincus, mais je vous donne quelques sources. D'abord, l'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris, une chronique de la vie parisienne du XVe siècle, écrit par exemple « Il gela si âprement 17 jours en suivant que la Seine fut prise de la gelée jusqu'à Corbeil. » Ensuite, en l'an 1497, Rouen est touché par une inondation qui aura plusieurs conséquences pour l'économie. Je cite maintenant une chronique d'époque. « Personne ne pouvait passer ni aller qu'en bateau. Greniers à sel, source essentielle de revenus, sont touchés par les eaux, les bois et les marchandises emportés par la rivière, la moisson compromise et le port inutilisable. » Ça te refroidit toutes ces histoires? Bon, alors attends. Maintenant les considérations climatiques passées, on peut passer à la prochaine étape pour s'interroger sur la manière dont l'hiver était appréhendé par la population au Moyen-Âge. Et je vous propose de retenir ici une idée importante, c'est l'ambivalence de l'hiver au Moyen-Âge. Alors pourquoi une ambivalence? Eh bien parce que d'un côté, l'hiver est une saison associée à la vieillesse et au recueillement, que l'on dit morte par rapport au printemps, qu'on appelle aussi la reverdie, qui est lui associé à l'amour et à l'inspiration littéraire. Mais de l'autre côté, l'hiver, c'est aussi la saison des coutumes festives et de la préparation du renouveau des beaux jours. Vous voyez bien l'ambivalence ici. Alors oui, ne t'inquiète pas, j'ai des preuves pour te prouver que cette ambivalence existait vraiment à l'époque. Par exemple, dans les livres d'heures, ces ouvrages enluminés qui aidaient les fidèles à suivre la liturgie des heures, c'est-à-dire en gros les prières quotidiennes chrétiennes, on retrouve les deux visages de l'hiver. D'un côté, les enluminures représentent des foyers chauffés, des repas festifs et des riches parés de manteaux de fourrure, mais de l'autre, les dessins nous donnent aussi à voir des vilains, c'est-à-dire des paysans frigorifiés, une nature hostile et des vieillards décharnés. Et d'ailleurs, rappelons l'origine de l'hiver en mythologie. Il s'agit des 6 mois de l'année que Proserpine passe aux enfers, 6 mois durant lesquels sa mère Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, rongée par l'absence de sa fille, cesse de féconder la terre. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était cette ambivalence de l'hiver, on peut faire la chasse aux idées reçues sur l'hiver moyenâgeux. Alors, la première idée qu'on peut avoir, c'est que l'hiver c'est une saison morte. Mais je crois, Gudule, que tu as 2 contre-exemples. Premier exemple, Rouen, hiver 1497. Et là, l'hiver est loin d'être une période où on cesse toute activité, et c'est même d'ailleurs une saison de pêche et la période du pic d'échanges saisonniers de la ville. Alors oui, Gudule, deuxième exemple pour nous montrer qu'en hiver on ne cesse pas toute activité, celui des écorcheurs. Alors les écorcheurs, c'est quoi? Ce sont ces hommes d'armes qui se retrouvent au chômage et qui, pour trouver logement et nourriture, commettent pillages et violences et font, je cite une chronique d'époque, de très grands maux partout où ils passoient. Obéissant à leur capitaine, ils auraient été environ 30 000 à sévir en Bourgogne, à l'est ou dans le sud du royaume pour échapper à la famine hivernale. Alors la deuxième idée qu'on a souvent, c'est que l'hiver est une saison peu propice aux épanchements littéraires, contrairement au printemps et à la reverdie qui, lui, inspirent les poètes. Alors c'est vrai que dans la poésie des troubadours, l'hiver est associé à 2 topos négatifs, l'opposition au printemps et la pauvreté. Alors pour illustrer cette opposition à la reverdie, citons le débat de l'hiver et de l'été, une œuvre où les deux personnages sont personnifiés et où l'été dit au premier.
Hiver, tu n'es que désir de ta panse remplir. Mieux vaut en un verger dessus l'heure gésir que le feu où te chauffe qui ne fait qu'en vieillir.
On voit vraiment ici cette opposition entre l'hiver et l'été. Pour évoquer maintenant le thème de la pauvreté, citons le poète Rudebeuf qui nous donne à voir dans ses poèmes de l'infortune un pauvre démuni et débauché, ce qu'on appelle alors un ribaud, et qui, je cite, a froid au cul qu'en bise de vente. D'ailleurs, en plus de la pauvreté, l'hiver est aussi associé à une forte différence sociale. Vous vous en doutez bien. Dans le livre de la mutation de la fortune, de Christine de Pizan par exemple, si les riches se parent de manteaux de fourrure, tout semble en revanche être alangouré de pauvreté, de froid, de faim et de trembler à voir grand faim, je cite ici Christine de Pizan. Bon, alors ça c'est-il cliché, le printemps c'est l'inspiration et l'hiver c'est la pauvreté. Mais certains poètes et le médiéviste Michel Zinc nous font vite comprendre que l'hiver peut aussi être source d'inspiration. Je cite ici Bernard de Ventadour dans ses chansons. Plus il vente, plus il pleut, plus je suis heureux. Mon cœur est tant amoureux que gelé me semble fleur et neige de verdure. Et puis l'hiver, c'est aussi la neige, qui est aussi un motif poétique et littéraire. Elle inspire les poètes et elle donne lieu à de nombreuses scènes romanesques. On pense par exemple à Perceval, fasciné par les gouttes de sang sur la neige.
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé, et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé.
Ok, alors sortons maintenant un petit peu du Moyen-Âge pour évoquer un autre sujet. On vous l'a dit, l'hiver c'est aussi un temps associé à la fête, et il est peut-être temps d'en parler. Alors je vous propose de me transformer un petit peu en présentateur d'émissions de vulgarisation d'histoire pour vous faire un petit tour d'horizon des traditions festives et vous allez voir comment ces coutumes nous permettent aussi de comprendre les représentations associées à l'hiver au fil des ans. Tu nous proposes un petit quiz, Gudule, ça t'irait ça?
Et nous voici arrivés à 1 million.
Alors première question, pourquoi est-ce que l'hiver est le temps des fêtes et depuis quand ça date? Alors remontons déjà à Rome. À cette époque, la semaine précédant le solstice d'hiver était le temps des Saturnales, soit plusieurs jours de trêve, de distribution de cadeaux et de banquets en l'honneur du dieu Saturne, quelques jours durant lesquels on revivait le mythique âge d'or et où les barrières sociales étaient totalement abolies. Les esclaves, par exemple, bénéficiaient de ce qu'Horace appelle les libertés de décembre et pouvaient par exemple manger à la table de leur maître. Au Moyen-Âge ensuite, cette même période est appelée les 12 jours et elle est marquée par la trêve de Noël, par des élections pour les membres du clergé. Le 26 décembre, c'est la fête des diacres, le lendemain, celle des prêtres, et enfin, le 1er janvier, la fête des sous-diacres ou la fête des fous, une fête à laquelle l'Église va rapidement s'opposer, et ça, Hugo en parle mieux que nous dans Notre-Dame de Paris. Alors cette période est aussi celle des repas festifs et des longues veillées. Le mois de décembre, c'est celui où l'on tue le cochon et les repas sont d'ailleurs justifiés médicalement. Écoutons d'ailleurs un traité de diététique qui justifie les repas copieux que l'on fait en hiver.
Hiver est un temps froid et moite. Pour ce fait, bon usé chaud de viande, cum chair de mouton et gras chapon et chair rôti. Travail de corps et compagnie de femmes peut-on user sans forfait ?
Allez, c'est parti, on passe à la deuxième question. Pourquoi Noël ? Eh bien, parce qu'au IVe siècle, quand l'Église choisit de célébrer la naissance du Christ, elle choisit la date du 25 décembre, qui était sous l'Empire romain celle du culte de la divinité solaire Sol Invictus, soleil invaincu, une fête rendue officielle par l'empereur Aurélien. Cette fête de Noël fait l'objet de plusieurs représentations, les premières apparaissant sur les sarcophages, à Rome, à Milan et à Arles, et étant associées, et c'est assez intéressant, à la ruralité, avec les figures de l'âne et du bœuf, et surtout celles des bergers, des hommes modestes, mais premiers avertis de la nouvelle. On voit bien ici que Noël était une fête ancrée dans les campagnes, et que les paysans avaient toute leur place dans les représentations liées à Noël. Troisième question, c'est parti. D'où viennent nos traditions festives ? Commençons d'abord par la crèche. Cette coutume viendrait en fait des jeux et des représentations, du genre cérémonie, nativité jouée, drame liturgique ou mystère, qui se développent à la fin du XIe siècle avec un but, rendre les textes bibliques accessibles à tous. Au XIIIe siècle ensuite, le diacre François exporte la messe de la nativité hors de l'église, en présence d'un âne et d'un bœuf, et la coutume de la crèche, du mot allemand « crippeux » qui signifie « mangeoire », se développe. Et c'est d'ailleurs pour remplacer les jeux trop brutaux que les chants de Noël, que l'on appelle Noël, se développent dès le XVe siècle, des chants composés en langue régionale par des poètes, des curés ou même des amateurs, et qui sont consignés dans ce qu'on appelait les Bibles de Noël. D'ailleurs, en parlant de chants, les enfants faisaient très tôt des tournées de porte à porte en réclamant un petit cadeau et en menaçant en cas de refus de déchanter, c'est-à-dire de retirer leur souhait de bonheur. Et on voit ici, c'est assez intéressant, l'importance des croyances à l'époque qui sont liées à Noël. Souvenir Saint-Nicolas. Alors vous le savez, il est encore fêté en Alsace et en Lorraine aujourd'hui, et il est notamment connu pour avoir fait ressusciter trois garçons, découpés en morceaux par un boucher, sympa. Mais il a vraiment existé. Saint-Nicolas, c'était l'évêque de Myre, une ville d'Asie mineure, et son culte s'est ensuite implanté en Europe occidentale, et surtout dans les régions rhénanes, où il se mêle aux croyances de la mythologie germanique. L'évêque prend plusieurs rôles, donateur de cadeaux, un être mystérieux se déplaçant dans les airs, un peu comme le dieu Odin, ou le chasseur fantastique ou le chasseur sauvage, personnage inquiétant, volant dans les airs à bord d'un équipage de revenants les soirs de tempête. Et j'en profite maintenant pour sortir de mon rôle de présentateur d'émissions d'histoire pour vous faire remarquer que ces anecdotes nous renseignent aussi sur les significations que l'on donnait à l'hiver. Le besoin de cadeaux, par exemple, répond à un besoin d'abondance, qui a été crucial à une époque où l'on ne savait pas si la vie allait reprendre au printemps et si les réserves allaient suffire. Et la figure du chasseur fantôme, qui a sans doute inspiré celle du père Fouettard d'ailleurs, reflète l'idée d'un hiver lié à la mort et à l'au-delà. On retrouve encore une fois l'ambivalence de l'hiver, décidément, j'insiste, mais c'est pour la bonne cause. Alors t'as raison. Changeons complètement de lieu et d'époque. Où est-ce que tu nous emmènes maintenant, Gudule ? Ah, super. Alors nous avons atterri dans un lieu complètement différent, à une époque complètement différente, expliquons un petit peu tout ça à nos auditeurs. Nous sommes maintenant en Hollande au XVIIe, au siècle d'or, c'est-à-dire l'époque où le pays connaît une importante prospérité économique et culturelle, où la peinture se développe. Et c'est là que ça nous intéresse. Cette période de développement culturel et économique coïncide aussi avec ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, cette période froide du XIVe et du XVe siècle, on en a parlé tout à l'heure. Oui, où je veux en venir. Eh bien, on fait que c'est précisément à cette époque en Hollande que l'hiver devient un thème pictural et un paysage digne d'être représenté pour la première fois sur de grandes toiles. Alors oui, toi aussi ça te dit quelque chose. Alors, je suis sûre que vous aussi, vous avez tous en tête les tableaux de Bruegel, comme par exemple les chasseurs dans la neige qui datent de 1565.
Sous la lumière diaphane de l'hiver rude et froid, trois chasseurs foulent de leurs bottes de cuir la blancheur immaculée de l'épais manteau neigeux qui recouvre le village. Les frêles branches des arbres nus émaillent le ciel de traîne. Là, on s'affaire devant la chaleur des braises. En contrebas dans la vallée, de minuscules silhouettes se pressent sur le lac gelé. Ici, on se serre dans la chaleur ouatée des chaumières aux toits croulants de neige. Au loin, des maisons qui s'accrochent timidement à flanc de colline et les cimes escarpées qui épousent la teinte du ciel.
Alors ce tableau est l'un des plus connus et a fait l'objet de nombreuses analyses, notamment celle de François Prudhomme. Pour lui, cette toile est la représentation de la subordination des hommes à l'environnement, une soumission à la nature que l'on retrouve d'ailleurs dans Andrei Rublev,
le film du réalisateur russe Andrei Tarkovsky,
qui nous donne à voir un peuple soumis à la transcendance de la nature et à la rigueur d'un environnement si vaste que toute individualité semble s'y perdre. Tu as raison, on s'éloigne un peu. Puis d'ailleurs, Bruegel n'est pas le seul à peindre ces scènes de genre hivernal. Henri Bricaverkamp, lui, peint le côté festif de l'hiver avec des scènes pittoresques, et c'est le premier à faire du genre hivernal sa spécialité. C'est ensuite à Esaias van de Velde que l'on attribue la naissance du paysage d'hiver. Quoi ? Eh bien, c'est lui qui, pour la première fois, a peint des paysages hivernaux sans référence à la Bible, avec un intérêt pour le paysage et pas seulement pour les activités. Toutes ces scènes, ce sont des scènes de genre, un terme important, qui s'attachent aux détails et à la vie des petites gens, et écoutons Todorov nous en parler. Les peintres hollandais de cette époque ont compris que cette femme qui traverse une cour, cette mère qui pèle une pomme, pouvait aussi être aussi belle que les déesses de l'Olympe. Alors, bonne question. Les tableaux, c'est bien joli, la description, c'est bien beau, mais que peut-on dire de ces tableaux ? Je vous propose d'y réfléchir un petit peu, et d'y réfléchir en deux mots. Société et politique. Est-ce que ça vous inspire ? Bon, je vais pas vous laisser poireauter si longtemps. Société d'abord, commençons par le social, puisque l'hiver est reflet de la situation sociale. D'un côté, les riches profitent des plaisirs de l'hiver, alors que de l'autre, les pauvres ont froid. En 1621 à Utrecht, on retrouve d'ailleurs des cadavres d'hommes ou d'animaux au moment de casser la glace qui entourait la ville. Mais de l'autre côté, l'hiver dans la peinture flamande, c'est la période où toutes les classes sociales se retrouvent sur la glace. Si le jeu de golf, ancêtre du golf, est réservé à une élite, le patinage par exemple est accessible à tous. Un proverbe du 17e le dit bien, le monde s'atteint en patinant, et le patinage permet en effet de parcourir de longues distances, parfois 200 km en un jour, sans avoir à payer. Petite anecdote qui n'a rien à voir mais que je vous dis quand même, en 1660, Vermeer, le peintre, aurait acheté un char à voile sur patin. Vous reconnaîtrez que l'idée est ingénieuse. Mais si ces scènes de patinage sont si nombreuses, c'est peut-être aussi par volonté d'esthétiser un idéal où toute la société se réunirait sur les cours d'eau gelée. Bien vu, Gudule. On en vient à ce deuxième aspect des tableaux hivernaux, l'aspect entre guillemets politique. Eh bien oui, ces peintures d'hiver, elles pourraient servir à exprimer une identité nationale fondée sur un idéal social. Là, je me permets de citer plusieurs études un peu éclairantes. Celle de Emlid Eude, pour laquelle les peintres font des singularités du climat un symbole identitaire. Ou alors celle de Simon Chama, pour lequel les peintres mettent la topographie à contribution pour emblématiser des caractéristiques nationales. Et citons pour finir Julien Knebuch, parle lui aussi d'une appropriation culturelle de l'hiver, mais également d'une phénoménologie du climat. Pour lui, l'art interroge notre perception de l'hiver et fait du climat une donnée qui doit être ressentie. En bref, je résume. Peindre les paysages d'hiver est un moyen de promouvoir en quelque sorte un idéal social qui ne correspond pas forcément à la réalité, puisque dans la réalité, on l'a vu, pauvres et riches ne vivent pas l'hiver de la même manière. D'ailleurs, certains vont plus loin et pensent que les peintures pourraient être liées à l'histoire de la Hollande. Les scènes de loisirs hivernaux coïncident avec la fin de la révolte des gueux contre la monarchie espagnole et les scènes de désolation avec le déclin économique du pays soumis à l'invasion des armées françaises. En gros, la Hollande va bien, on peint des scènes d'hiver où tout le monde se retrouve sur la glace, la Hollande va mal, les scènes d'hiver correspondent plutôt à la pauvreté, au froid et à la misère. C'est lors d'un dernier saut dans le temps et je crois, Gudule, que tu nous emmènes sous Louis XIV.
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Le plus jeune était fort délicat, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit poucet. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants, je suis résolu de les mener perdre demain au bois. »
Oui. Alors, Gudule, je sais pas ce qui t'arrive, mais pourquoi tu nous lis un extrait du Petit Poucet ? Je crois comprendre, c'est peut-être un moyen de nous parler de ces terribles hivers du 17e. Alors, en effet, c'est vrai que parler du petit poucet, c'est un bon moyen d'évoquer une période difficile où l'hiver devient une réelle menace capable de décimer la population. Pourquoi ? Eh bien, faisons donc un rapide point contexte. Lorsque Charles Perrault publie Le Petit Poucet, nous sommes en 1697. Déjà, on est en plein dans le petit âge glaciaire et les hivers sont donc globalement rigoureux. Ensuite, le climat froid a des conséquences sur les récoltes, alors que l'on vit dans une économie de subsistance. Elles sont moins abondantes, donc les réserves sont moindres, et la population est affaiblie, ce qui engendre des disettes et famines. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Et puis ensuite, Louis XIV est alors engagé dans une guerre coûteuse qui nécessite la participation de la population, la guerre de succession d'Espagne. Alors oui, j'ai quelques chiffres pour te prouver tout ça. En 1693, l'hiver est marqué par une famine générale. En 1715, la Seine est complètement gelée. Et en 1709, c'est le fameux grand hiver. On raconte même que le vin gèle à la table de Louis XIV, que les températures atteignent moins 30 degrés et que 600 000 personnes ont été victimes de la famine et du froid. Alors pour avoir un témoignage un peu plus concret de cette période difficile, je vous propose de citer quelques sources. Bossuet d'abord s'adresse au roi dans une lettre. Il meurt de faim. Oui, monsieur. Il meurt de faim dans vos terres, dans vos châteaux, dans vos villes, dans les campagnes. Saint-Simon, dans ses mémoires, l'écrit aussi. Les loups s'attaquent aux hommes, le vin gèle dans les carafes, et l'encre se fige au bout de la plume. Les registres paroissiaux, eux, mentionnent des situations extrêmes liées au froid. On relève des cas d'anthropophagie, des attaques de loups et, je cite, des chaînes fendues de haut en bas. Dans l'élection de Bordeaux, un intendant écrit. Les paysans de la campagne, privés de toutes sortes de travail, sont dans les rues, faibles et languissants, le visage pâle et décharné. On sait aussi que la situation a été difficile grâce au mercurial, c'est-à-dire les relevés du prix du blé. Prix du blé multiplié par 6 dans le nord de la France entre 1708 et 1709, les émeutes éclatent et les charrettes de grains sont attaquées, à une époque où l'on vit dans une économie de subsistance. Et puis les vols et les pillages sont nombreux, malgré les distributions de pain et les hôpitaux sont bondés. Au final, ce conte témoigne des hivers difficiles du XVIIe et nous parle d'ailleurs de la victoire sur la faim et les pulsions naturelles. Comme quoi un conte peut nous parler morale peut aussi être un bon témoignage historique.
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. Pas un bruit, pas un son, toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds plus de chaume. L'hiver s'est abattu sur toute floraison. Des arbres dépouillés dressent à l'horizon leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. La lune est large et pâle et semble se hâter. On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. De son morne regard, elle parcourt la terre et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. Et froid tombe sur nous les rayons qu'elle darde, fantastique lueur qu'elle s'envasement. Et la neige s'éclaire au loin, sinistrement, aux étranges reflets de la clarté blafarde.
Ah, ok, on est revenu maintenant au XXe siècle, les gulules, jusqu'à un dernier petit saut dans le temps. C'est parti. Vous connaissez donc tous l'hiver 1954, celui où les températures descendent jusqu'à moins 25 dans l'Est et où l'abbé Pierre, ancien résistant et membre du Parti démocrate chrétien MRP, lance à la radio son fameux appel de 1954. Il dénonce l'ignorance sociale et médiatique et parvient à obtenir l'aide du gouvernement pour fonder son mouvement Emmaüs. C'est le début de ce qu'on appellera l'insurrection de la bonté, écoutons-le.
Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Alors faisons maintenant un dernier petit saut dans le temps pour explorer un des hivers marquants du XXe siècle et partons pour la Grande-Bretagne, année 1978. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut bien s'y passer ?
Piled outside the local refuse depot. Like others in central London, it's been closed now for 2 weeks because of the dustman's indefinite strike.
Dans les rues, les déchets s'accumulent et le chaos est total. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes au cœur du Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement, une expression tirée de Richard Watt Shakespeare, qui désigne la période de grève qui fait suite à la décision du gouvernement travailliste de limiter l'augmentation des salaires pour contenir l'inflation. Un événement qui a d'ailleurs inspiré Thomas Reverdy, auteur de L'hiver du mécontentement, qui a gagné cette année le prix Interallié. Petit conseil de lecture au passage.
Vers le soir, un nuage d'un gris rose monte de l'horizon et lentement emplit le ciel. De petits souffles froids s'élèvent et font frissonner l'air. Puis, un grand silence. Une immobilité douce et glaciale descend sur Paris, qui s'endort. La ville noire sommeille. La neige se met à tomber avec lenteur dans la sérénité glacée de l'espace, et le ciel couvre sans bruit l'immense cité endormie d'un tapis virginal et pur. Janvier, lorsque Paris s'est éveillé, il a vu que pendant la nuit, la nouvelle année avait mis une robe blanche à la ville. La ville semblait toute jeune et toute chaste. Il n'y avait plus ni ruisseaux, ni trottoirs, ni pavés noirâtres. Les rues étaient de larges rubans de satin blanc. Les places, des pelouses toutes blanches de pâquerettes. Chaque saillie, les bords des fenêtres, les branches des arbres portaient de légères garnitures de dentelle. On lui dit que la cité était une petite fille ayant la jeunesse tendre de la nouvelle année. Elle venait de jeter ses haillons, sa boue et sa poussière, et elle avait mis ses belles jupes de gaze. Elle respirait.
Alors après cet intermède littéraire, vous avez entendu un extrait d'un texte de Zola paru dans le Figaro, et après ce voyage temporel et pictural, je vous propose de passer à la tambouille, cette deuxième partie d'émission où l'on essaie d'analyser le sujet sous tous les angles. Alors pour commencer ce tour d'horizon, je vous propose d'abord de vous attarder du côté des sciences avec... Oui Gudule, t'as une idée ? Un petit quiz scientifique ? Eh bien bah, pourquoi pas, c'est parti.
Et nous voici arrivés à 1 million.
Alors commençons d'abord par la catégorie science. D'abord, la première question, connaissez-vous le winter blues ? Eh bien, il s'agit en fait de quelque chose de très sérieux, le trouble affectif saisonnier qui se traduit par un changement d'humeur au moment de l'hiver. Mais alors, comment expliquer scientifiquement ce winter blues ? Eh bien, sûrement par l'altération du rythme circadien, c'est-à-dire de l'ensemble des processus biologiques et cycliques, qui engendre notamment une surproduction de mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc une fatigue accrue, et une modification de la production de sérotonine, un neurotransmetteur associé à la gestion des humeurs et à l'état de bonheur. Les remèdes seraient donc l'exposition à la lumière, mais aussi la consommation d'aliments riches en vitamine D, la vitamine dont on est justement en manque lorsque le soleil se fait rare. Et tenez, tant qu'on y est, une deuxième question, une question piège, la neige est-elle blanche ? Eh bien, en fait, non. Elle a l'air blanche puisqu'elle réfléchit la lumière au lieu de l'absorber, comme les nuages en fait, mais elle est en réalité transparente. En fait, on obtient une lumière blanche qui est en réalité un mélange des différentes couleurs du spectre lumineux, puisque la neige réfléchit 95% du rayonnement solaire visible. T'as raison, on va peut-être arrêter avec ces questions à tout bout de champ, on se croirait dans question pour un champion. Dans ce cas, j'aimerais quand même te poser une question à toi, Gudule. Est-ce que tu savais qu'on pouvait être scientifique et avoir un vrai talent littéraire ? Eh bien, si. Cas d'ailleurs de Bernd Heinrich, un biologiste allemand qui a signé un ouvrage que je vous conseille chaleureusement et encore une fois, pas de jeu de mots. Ça s'appelle « Survivre à l'hiver », c'est paru aux éditions Biophilia, c'est magnifiquement illustré et ça fait d'une pierre deux coups. D'abord, et c'est le sujet du livre, l'auteur nous livre les stratégies secrètes que déploient les animaux pour survivre à l'hiver. On découvre alors que les chenilles produisent un antigel puissant ou que certains écureuils mettent leur sang en surfusion pour résister au froid. On devient incollable sur la construction d'un nid thermique par les oiseaux et on apprend comment le roitelet à couronne dorée survit par moins 30 degrés alors qu'il ne pèse que 5 grammes, entre autres exemples passionnants. Mais, en plus de nous livrer ses secrets de la nature, Heinrich nous ouvre aussi les yeux sur notre mode de vie prédateur qui l'oppose à celui des animaux, capables, eux, de survivre aux conditions extrêmes sans saccager l'environnement, et le tout avec une vraie poésie qui rend le récit passionnant. Oui, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais je vous assure que ça l'est. Et je vous invite d'ailleurs à lire ce récit qui vous invite à regarder les merveilles de la nature avec un œil renouvelé. T'as raison, je crois que blotti dans votre tanière cet hiver, vous aurez de quoi lire. En parlant de lecture, je voudrais aussi vous inviter à vous plonger dans le recueil du poète Philippe Jacotet, À la lumière d'hiver. Le poète évoque la perte de l'être aimé et la souffrance du deuil, mais au fur et à mesure de la lecture du recueil, on chemine en fait vers une lumière et vers un espoir qui viennent transcender le chagrin et la noirceur. Alors vous savez quoi, je vous laisse avec un petit extrait qui parlera mieux que moi de l'œuvre. Autrefois, moi, l'effrayé, l'ignorant, vivant à peine, me couvrant d'images de les yeux, j'ai prétendu guider mourants et morts. Moi, poète abrité, épargné, souffrant à peine, allait tracer des routes jusque-là. À présent, lampe soufflée, main plus errante qui tremble, je recommence lentement dans l'air. Alors oui, on s'écarte un peu du sujet, mais ça reste l'objectif de cette émission, regarder l'hiver d'un œil nouveau. Alors, le message, apprenez à saisir la grâce de la lumière d'hiver et plongez-vous dans le recueil de Jacotet. Alors, quittons quand même à contre-cœur la littérature pour reposer un peu les pieds sur terre et cette fois-ci, allons faire un tour du côté de l'urbanisme et de la géographie. Il ne s'agira pas de survie ici, mais plutôt d'aménagement, puisque l'hiver, et plus précisément la neige, peut être un outil pour aménager la ville. Alors, comment ? Comment est-ce que la neige peut aider les aménageurs à organiser la ville de manière pertinente et nouvelle ? Est-ce que vous avez une idée ? Eh bien, en s'inspirant de la géographie de la trace, ou géoéthnologie, qu'ont théorisé plusieurs chercheurs et pour lesquels les traces laissées par les citadins peuvent être utilisées pour aménager la ville. Des urbanistes ont par exemple pris des photos de la ville sous la neige et ils ont remarqué que plusieurs espaces proches de la route étaient appropriés par les piétons sans que cela gêne les voitures. Suite à ça, ils ont décidé de l'aménagement de snake down, c'est-à-dire d'avancer de trottoir, justifié par le fait que les piétons s'approprient, quand il neige, un espace plus large que le trottoir et qu'en fait ça gêne pas du tout les voitures. Comme quoi, la neige peut être utile pour gérer l'espace urbain. D'ailleurs, pour rester dans le concret, l'hiver c'est aussi des contraintes techniques. Prenons le cas des voies ferrées par exemple. Hiver égale neige, égale des arbres qui penchent sous le poids de la neige et pourraient gêner le passage du train. Mais égal aussi le fait que quand les trains tournent, ils plaquent la neige qui bouche l'aiguillage et le rend incontrôlable à moins d'utiliser ce qu'on appelle un réchauffeur. Autre problème, ce qui neige en fait un train quand il neige, c'est le fait que comme le train a de la vitesse et dégage de l'air, la neige vole et elle se glisse dans tous les endroits possibles, puis se transforme en glace, une glace qui peut se détacher et tomber sur la voie, voire par rebond, casser les carreaux et déranger le passager qui dormait tranquillement contre la vitre, et oui c'est déjà arrivé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a, Gudule ? Ça va ? Au moins, tu sauras pourquoi la SNCF, maintenant, annonce autant de retard en hiver. Ça va ? Bon, ok, j'ai compris, on sort de ces préoccupations techniques et on s'interroge maintenant sur les questions plus sociales et politiques de l'hiver. On peut commencer par se poser une question simple d'abord. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour aider les SDF pendant l'hiver ? Eh bien, un plan hiver que le gouvernement a annoncé le 31 octobre dernier et qui stipule notamment la mise en place de 14 000 plages d'hébergement d'urgence supplémentaires en cas de grand froid et 5 millions d'euros investis pour plus de maraudes pour aider les SDF qui n'appellent pas le 115 et ne demandent pas à être hébergés. Alors, comme ça, ce plan paraît plutôt efficace et positif, mais en fait, il faut aussi comprendre l'envers du décor. Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. D'abord, le gouvernement ne s'engage pas à pérenniser ses places. Du coup, au printemps, environ 35% des pensionnaires des hébergements d'urgence sont remis à la rue. Et puis ensuite, ces chiffres en cachent un autre. La baisse des crédits pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui accompagnent les SDF dans la recherche d'un logement durable ou social. D'ailleurs, à Paris, le 17 décembre, 500 personnes ont appelé le SAMU sans obtenir d'hébergement, et si à Lyon, le nombre de places en logement a certes été multiplié par 4, la population qui appelle le SAMU, elle, a été multipliée par 20. Du coup, on est donc bien loin de l'objectif de Macron, à savoir plus de sans-abri dans les rues d'ici la fin 2017, mais ça n'empêche pas certains acteurs de continuer à faire bouger les choses. Anne Hidalgo, par exemple, a annoncé vouloir héberger des SDF à l'intérieur de la mairie de Paris, et plus originale, l'initiative de Geoffroy Drénal. Geoffroy Drénal, c'est qui ? C'est un jeune ingénieur bordelais qui a créé l'Igloo. C'est un joli nom pour un abri de fortune qui permettrait de gagner 15 degrés par rapport à la température extérieure, simplement en utilisant la chaleur humaine comme chauffage, grâce à une feuille d'aluminium qui entourerait cet igloo et qui renverrait en fait les rayonnements du corps. Bon, malgré ces difficultés, l'hiver c'est aussi un mode de vie et des rencontres. La preuve par exemple avec une autre petite référence que je vous glisse comme ça au passage mais que vous pourrez aller regarder par vous-même, le documentaire « Hiver nomade » qui retrace le parcours de deux bergers suisses qui effectuent une transhumance de 600 km et dorment en bivouac accompagnés de leurs animaux pendant les mois d'hiver. Et ça, c'est une belle aventure humaine. Tu as raison sur ces belles paroles, clôturons notre émission par un rapide tour du côté de l'art. Et oui, parce que plusieurs siècles après Bruegel, l'hiver peut encore être sujet artistique et la neige un motif pictural de choix. Pensons par exemple à la Pie de Monet ou au paysage de neige de Sisley. Oui, il y a des œuvres plus modernes que Gudule, je te l'accorde. J'en profite pour vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, l'initiative Cape Farewell, un groupe d'artistes fondé en 2002 par David Buckland et qui cherche une réponse culturelle au changement climatique et qui cherche également à tisser des liens... Oui, à tisser des liens comme nous dans Passerelle, c'est bien Gudule, t'as retenu la leçon, à créer des liens donc entre climatologie et art contemporain. Le concept est le suivant. Des artistes mènent des expéditions dans les eaux gelées du pôle Nord pour prendre conscience des conséquences du réchauffement climatique et transmettent ensuite au public leur expérience à travers la chorégraphie, la musique, la sculpture, la poésie, la peinture ou des installations artistiques. Dans leur première exposition The Ice Garden, ils nous donnent à voir leur vision d'artiste sur leur voyage. Dans Sinking Ice, on nous montre une vidéo surprenante d'un iceberg prêt à s'effondrer dans l'océan, et le compositeur Max Eastley, lui, met en musique le bruit du craquement lié à la libération de bulles d'air de plusieurs millions d'années compressées par la glace dans l'atmosphère. L'occasion, puisqu'on parle d'art, de se replonger dans l'ambiance tantôt inquiétante et glaçante, tantôt ouatée et onirique, des toiles de Monet comme la Pie, des paysages de Sisley ou de ceux de Friedrich, les tableaux sont d'ailleurs juste en dessous de la page internet, et en écoutant un extrait des romances de Paul Verlaine.
Dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine luit comme du sable. Le ciel est de cuivre, sans lueur aucune, on croirait voir vivre et mourir la lune. Comme des nuées, flottent gris les chênes des forêts prochaines parmi les buées. Le ciel est de cuivre, sans lueur aucune. On croirait voir vivre et mourir la lune.
En bref, vous l'aurez compris, parler de l'hiver, c'est évoquer une saison fascinante qui s'accompagne de tout un tas d'enjeux et de représentations, et j'espère que malgré le froid mordant, malgré la pluie, malgré la neige, vous pourrez porter un œil nouveau sur cette saison mal aimée, percevoir la beauté de la lumière de l'hiver, comprendre comment est vécue cette saison, comment elle est représentée dans l'histoire, et quels sont ses enjeux. Bon bref, en attendant, je vous propose de vous retrouver bien au chaud pour une prochaine émission entre le thème des critiques du pouvoir de Voltaire à Trump ou un délire en voyage sur le thème de la folie. Je crois qu'on a de quoi alimenter les longues soirées d'hiver et le printemps qui arrive. N'est-ce pas, Gudule ?